Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la journée mondiale du refus de la misère. Elle aura lieu à Montpellier le 17 octobre. Mes deux invités nous la présenteront. Ils font partie des organisateurs de cet événement. Et au-delà de cette date, ils parleront aussi de leurs différentes activités associatives. Édith Blanchet et Bernard Morin, merci d'avoir accepté de venir au micro de Divergence.
Édith
Blanchet, bonjour à vous. Édith Blanchet, vous êtes une des trois personnes responsables du groupe d'animation de Montpellier du mouvement ATD Quart Monde. Quant à vous, Bernard Morin, vous faites partie des membres du pacte civique à Montpellier. Alors, qu'est-ce que c'est ce pacte civique, dites-nous?
Alors, le pacte civique, c'est un mouvement national qui se décline avec des collectifs locaux. Il y en a à Lyon, il y en a à Grenoble, il y en a dans l'Hérault depuis 12 ans maintenant. C'est à partir de quatre valeurs, mais je préfère dire, on est attaché à essayer de trouver ensemble la solution pour avoir une vie collective la plus agréable possible, la plus citoyenne possible.
Très bien. Alors oui, parce qu'il y a un aspect activation, je dirais, du civisme ou de la citoyenneté.
Exactement. Voilà, la démocratie participative, même si c'est plus un joli mot, mais j'y tiens encore.
C'est un mot un peu fatigué. Oui.
Voilà.
Très bien. Et puis donc, je précise, mais on en parle tout à l'heure, que vos deux associations, ATD Quart Monde et le Pacte Civique, sont membres d'un autre pacte, le pacte du pouvoir de vivre, dont on en dira un mot, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons vous expliquer tout ça. Avant que vous parliez de vos activités, vous le savez, je vais vous prier de raconter votre Montpellier avec ce fil conducteur, d'émission en émission, à votre tour, d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives. Édith Blanchet, à Montpellier, quels sont vos lieux ou le lieu favori, votre lieu que vous avez envie de valoriser, je dirais, ou de nous raconter?
Et moi, c'est la vieille fac de médecine, c'est là où j'ai fait mes études. Je me revois dans le Theatrum Anatomicum.
C'est-à-dire le grand
amphi. Dans une petite salle en bas en train de disséquer. Et puis, je me rappelle Rabelais et toute l'histoire. Et puis, l'avenir aussi, parce que la médecine à Montpellier, c'est quelque chose qui est en pointe.
Oui, donc, en fait, du coup, la passerelle entre le passé historique de la fac et, bien sûr, la vocation vers le futur, la santé future des étudiants qui font leur début.
Voilà.
Alors, Bernard Morin, un peu même question. Qu'est-ce qui, à vos yeux, singularise Montpellier là? Comment, quand vous avez des amis de passage, que leur dites-vous?
Bon, moi, je ne suis pas né à Montpellier. Je suis né dans un petit village en milieu rural, à côté de Metz. Et j'habite à Montpellier. On habite à Montpellier depuis 18 ans. Mais j'avais fait des études à la fac Paul Valéry. Et les deux quartiers pour lesquels j'ai le plus de solidarité, le plus d'attachement, c'est le quartier de la Mausson, ou la Paillade, et le quartier des Cévennes, où nous habitons.
Deux quartiers populaires, pour
deux quartiers difficiles, mais j'aime bien les défis.
Eh bien, on va voir ça. Alors, je vous invite maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de parler de ce que vous faites, l'un et l'autre, une question personnelle à chacun de vous. Édith Blanchet, qu'est-ce qui vous a conduite à rejoindre ATD Quart Monde?
En fait, j'ai rejoint ATD Quart Monde parce que je voulais lutter contre l'injustice, surtout l'injustice sociale. Mais en fait, j'y reste. Ça, c'est encore plus intéressant.
Oui, parce que vous auriez pu ne pas vous y retrouver.
Oui, j'y suis depuis plus de 40 ans. Donc, c'est que les personnes qui vivent dans la précarité m'apprennent les choses essentielles de la vie.
Très bien. Et alors, Bernard Morin, même question. Quelles sont les raisons de vos engagements?
Mais moi, j'ai travaillé pendant 39 ans au département de l'Hérault dans l'éducation populaire. Et ça m'a marqué et j'ai eu envie, au moment de ma retraite, de continuer, même avant.
De poursuivre dans cette voie.
De poursuivre, parce que je pense que c'est une solution pour qu'ensemble, on sorte de ce trou d'impuissance qui semble s'approfondir chaque jour. Mais j'y crois.
Oui, c'est ce que j'entends dans vos propos successifs, à la fois de la lucidité, mais aussi de l'optimisme. On va voir ça de plus près dans les minutes qui viennent. Alors, Eddy Planché, si vous voulez bien nous présenter ATD Carmonde. Autrefois, on disait « ATD, aide à toutes les détresses ». Aujourd'hui, ça signifie « agir tous pour la dignité ». Et alors, donc, qu'est-ce que c'est ce mouvement? Et au passage, Carmonde, bon, un petit éclairage pour celles des auditeurs, auditrices qui ne verraient pas à quoi ça correspond.
D'abord, ce n'est pas une association, c'est un mouvement, parce que nous sommes en mouvement. C'est international, sans appartenance politique ni confessionnelle. C'est né en 1957 par le fondateur Joseph Rzezinski et c'est un mouvement qui mène des actions qui visent à mettre fin à la misère en assurant l'accès de tous et de toutes aux droits fondamentaux. Et sa manière de fonctionner, c'est d'être à proximité quotidienne avec les personnes exclues et d'en tirer une expérience. Et de cette expérience, il en est ressorti que le combat pour l'éradication de la misère ne peut se réussir que s'il est pensé, mis en œuvre et évalué avec les personnes concernées, donc avec les personnes qui vivent la misère. Donc, une des plus grandes actions, c'est d'être aux côtés des personnes qui vivent la misère et de faire en sorte que leurs paroles soient entendues. Et Carmonde, c'est...
On a en tête Tiers-Monde, on voit aussi cette partie de la planète. Bon, les choses sont un peu différentes maintenant, qui étaient en retard de développement, on va le dire simplement. Et un Carmonde, ça donne à penser que, non pas dans un pays plus ou moins lointain, mais chez nous, il y a des personnes donc, qui sont à côté, quoi, qui ne sont pas tout à fait associées au mouvement général de la société.
C'est en lien avec la Révolution française, le tiers-monde et le quart-monde. Donc, c'est les personnes qui sont en dehors de ce tiers état et qui ne sont pas écoutées, pas entendues et qui vivent la précarité et la misère.
Qui sont exclus.
Dans notre pays.
Qui sont exclus en quelque sorte.
Qui sont exclus et qui vivent à côté de nous en France et, ou dans d'autres pays, dans tous les pays où ATD est présent, mais de partout.
Alors, vous l'avez commencé à l'expliquer. Il y a plusieurs formes d'action là, que ATD Carmonde développe à la fois au plan national et international, au plan local. Sur le terrain, vous l'avez dit. Il y a également agir auprès des institutions. On y reviendra en parlant. un peu plus tard de vos actions et également le travail de conviction autour de vous, de l'opinion publique. Est-ce que ces trois visées correspondent à ce que vous faites ici localement avec le groupe de Montpellier?
Oui, localement on a des actions concrètes planifiées, régulières, et puis des fois on répond à des appels qui sont
des appels de personnes concernées ou de tiers ou d'autres structures ou associations qui orientent des personnes vers vous.
Oui, mais en fait, là, je pensais surtout à des appels en lien avec des institutions qui nous aident à réfléchir avec eux. C'est pas très fréquent, mais quand elles y sont, on le fait. Donc, nos actions sur Montpellier, on est implanté au niveau du quartier Pas du Loup, parce que notre local est là et qu'on était en lien avec l'école du quartier. On fait une bibliothèque.
Donc, Pas du Loup, c'est du côté de la cité Paul Valéry, c'est ça?
C'est la cité Paul Valéry, mais des fois, il y a on confond avec la fac de lettres Paul Valéry, c'est pas du tout là. C'est
oui, pour pas ça du que tout, je dis. Oui, bien sûr.
C'est un quartier politique de la ville. C'est des HLM. Et,
alors, je précise, politique de la ville, c'est un dispositif de l'État d'accompagnement des quartiers dits difficiles. Donc, parce que politique de la ville, c'est une formulation confuse. Ce n'est pas la politique de la ville de Montpellier, c'est la politique de la ville, un certain nombre de politiques publiques tournées vers les habitants des quartiers. Donc, ça, c'est un local qui sert votre base, en quelque sorte. Et vous travaillez plus particulièrement dans ce quartier-là?
Oui, donc on est dans ce quartier au niveau des actions concrètes qui sont une bibliothèque de rue, c'est-à-dire qu'on va dans le square, là, on met une bâche et on lit des livres. C'est pour faire que la culture, et en particulier par le livre, soit accessible à tous les enfants, et puis aussi pour entrer en contact avec les familles. Les deux sont importants. On a aussi une aide à l'aide aux devoirs. Donc, on ne fait pas de l'aide aux devoirs. On reçoit les familles, donc les enfants avec un parent, pour aider les parents à aider leurs enfants dans leur travail scolaire. et lier des liens aussi avec les familles, avec les enfants, que l'image de l'enfant par rapport à ses parents soit une fierté, quoi, et puis voir comment les parents s'intéressent à ce qu'ils font.
Donc toujours cette formule de mettre les gens en mouvement et pas dans une attitude plus ou moins surplombante comme on a pu le voir ou comme on le voit encore.
Moi, je sais pas comment agissent les autres. Hein. Nous, c'est notre idée que pour éradiquer la misère, comme je vous l'ai dit au début, ça, c'est avec les personnes concernées et voilà. Donc nos actions sont un peu tournées vers ça. Donc on a aussi une université populaire Carmonde. C'est un groupe où on est avec des personnes qui vivent en précarité et qui réfléchissent sur des thèmes de la vie, sur leur combat, sur leur expérience positive ou négative, qui partent de leur expérience de vie. Et par exemple, on a évoqué le thème du travail, quand est-ce qu'elles ont travaillé, quelles ont été leurs expériences, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, et de par là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le travail soit une bonne chose pour tous. Et on se réunit au niveau de Montpellier, puis il y a un groupe à Perpignan, un groupe à Carcassonne, un groupe à Toulouse, et puis trois fois par an, on se retrouve en grande région pour échanger sur ce thème. Ce sont les personnes qui vivent en précarité et qui ont surtout la parole. Et puis après, les résultats sont retranscrits au niveau national, et le niveau national, en faisant partie des instances, par exemple le Césaire, en ayant des liens avec les ministères, ou essaye de transmettre la parole des personnes qui vivent en précarité pour changer un peu notre société.
Voilà, parce qu'il y a quand même à partir de, je veux dire, cet enracinement, cette authenticité, hein, d'une parole réelle des personnes concernées, se tourner quand même vers ceux qui décident, bon, le comité économique et social et environnemental peut-être, mais aussi, je ne sais pas quoi, le ministère des Affaires sociales par exemple, là où se mettent en œuvre des politiques publiques qui ont vocation, en tout cas pour certaines d'entre elles, à répondre à ces besoins. C'est bien ça, comme ce débouché politique. Hein.
Oui, enfin, c'est les deux sont liés. Hein. Mmh. Et puis, ATD, ce n'est pas un mouvement de haut en bas. Quoi, hein. C'est de haut en bas et de bas en haut. Et puis, nous avons aussi une action avec des personnes qui étaient migrantes, demandeurs d'asile, qui malheureusement étaient déboutées. C'est difficile parce que leur vie est difficile, pour essayer de réfléchir, d'abord de faire le lien entre des personnes en précarité d'ici et des personnes et eux, une relation conviviale, d'amitié, d'échange. Et puis après, pour porter une réflexion pareille au niveau national, on a... qu'est-ce qu'on a encore le 17 octobre, qui est une de nos grosses activités.
On va y venir, qui est un grand rendez-vous annuel. Oui.
Voilà, et des activités ponctuelles. Il y a 2 ans, par exemple, on a réfléchi avec la municipalité qui réfléchissait sur l'aide alimentaire. Et nous, notre rôle a été de permettre aux personnes qui en bénéficiaient ou qui étaient dans la précarité de participer à cette réflexion. Et après, on a fait une formation sur la demande aussi pour essayer avec... On a fait cette formation avec des personnes aussi en précarité, voilà, toujours un regard croisé. Et on fait aussi partie du pacte du pouvoir de vivre.
Très bien. Alors, quand on a préparé l'émission, je me suis dit, vous avez des chiffres, ce que peut représenter la misère à Montpellier. Vous n'en avez pas, mais vous m'avez dit tout à l'heure, avoir au moins un chiffre national, donc 11,2 millions de personnes qui sont, c'est une étude quoi, INSEE, c'est ça, qui évalue le nombre de personnes concernées. C'est considérable, ça fait quoi, bon, 15 ou 16%, donc on peut penser que d'ailleurs dans notre ville ou dans notre midi, là, on sait bien que la précarité est plus forte, que le nombre de personnes touchées par les minimums sociaux proportionnellement à la population totale est plus fort qu'ailleurs, donc ça veut dire quand même beaucoup de personnes, hein, à Montpellier, plusieurs milliers de personnes en tout cas, qui sont concernées par ce phénomène.
Oui, mais en fait, ATD veut toujours aller vers celui qui est le plus exclu. Oui. Donc, c'est sûr qu'un grand, plus le chiffre est grand, plus c'est impressionnant. Mais ATD souhaite qu'il n'y ait plus de précarité et de pauvreté.
Très bien. Alors, La série d'animation dont Bernard Mourin et vous allez nous parler a donc lieu le 17 octobre. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi le 17 octobre ?
Alors, le 17 octobre, c'est historiquement, en 1987, le fondateur d'ATD s'est réuni sur le parvis des droits de l'homme à Paris avec d'autres associations et a fait sceller une dalle qui disait que quand il y a de la pauvreté et de la misère, les droits humains ne sont pas respectés. Et puis, donc, c'était un 17 octobre. Et puis cette journée a été reconnue officiellement par les Nations Unies depuis 1992. Donc c'est les Nations Unies qui donnent le thème et qui lance cette journée qui est mondiale.
Donc les Nations Unies, il y a un certain nombre de rendez-vous que les Nations Unies ont inscrits dans leur calendrier et qui sont proposés bien sûr au fil de l'année. Alors, vous l'avez évoqué, chaque année il y a un thème. Cette année, le thème de la Journée mondiale du refus de la misère, c'est « Vaincre la maltraitance sociale et institutionnelle ». Alors, Bernard Morin, je vous propose, qu'est-ce que ça veut dire la maltraitance sociale ? Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas la même chose, me semble-t-il, la maltraitance institutionnelle ?
Alors, je vais le lire pour pas me tromper, parce que...
Ouais, comme ça, ça permet d'être précis.
La maltraitance sociale, c'est les discours, les stigmatisations, les préjugés. Et donc la maltraitance institutionnelle...
Voilà. Donc je vous arrête, c'est ce qui se passe dans la société,
voilà.
Et la manière dont sont perçus. Bon, c'est la même chose pour le racisme, donc comment les images, voilà, ou les idées que les personnes se font, que nos concitoyens se font, un certain nombre de personnes...
Et la maltraitance institutionnelle, bon, c'est l'accueil des déshumanisés partout, hein, dans les commerces, dans les administrations. Les procédures opaques, on ne comprend rien, les sanctions injustes et les ordinateurs qui sont la seule façon de communiquer aujourd'hui ou avec des ruptures d'âge et de génération. On est, voilà. Et donc c'est d'essayer de se dire comment on pourra arriver à respecter les droits et la dignité de chacune et de chacun. C'est la deuxième année qu'on a ce thème, hein.
Donc oui, c'est important. C'est un thème fort pour un certain nombre d'associations.
C'est la deuxième année qu'on le travaille, voilà.
Alors, il en sera question, bien sûr, lors du 17 octobre, mais on va aborder la question du programme. Mais avant, moi, Edith Blanchet, ces formes-là, bon, de mise à l'écart, en quelque sorte, hein, vous les avez rencontrées concrètement, ici à Montpellier, où des personnes sont de fait victimes de maltraitance.
Au niveau de la maltraitance sociale, je vais donner un exemple. C'était une maman qui va voir une travailleuse sociale. Toutes les travailleurs sociales ne répondent pas et n'agissent pas de cette manière, hein, loin de là. C'est peut-être une minorité. Mais elle nous a transmis que quand elle est allée demander de l'aide, parce que son mari, elle avait dû se séparer de son mari vivant des violences, et la travailleuse sociale lui a dit... Ah, mais vous êtes encore enceinte, là ? Vous attendez encore votre cinquième enfant ?
Donc, un jugement.
Voilà. Donc, vraiment, après, elle n'avait plus envie de retourner voir les travailleurs sociaux. Voilà. Et sinon, la maltraitance institutionnelle, on peut donner l'exemple du RSA et de la dernière loi qui est sortie, où pour pouvoir toucher le RSA, il faut réaliser une activité bénévole de 15 heures
par semaine.
Voilà. Et puis après, il y a de multiples exemples. D'ailleurs, nous-mêmes, on en subit des maltraitances institutionnelles. Mais quand on est dans la pauvreté et la précarité, c'est vital. Quoi,
bien sûr, on est particulièrement démunis.
Et oui, et puis attendre 15 jours un rendez-vous avec le travailleur social, qui peut hélas pas faire autrement. Puis après, les démarches auprès des institutions pour avoir ces droits qui durent un mois, deux mois.
Il manque un papier, c'est repoussé, etc.
Et donc pour eux, c'est vital, puisqu'ils n'ont pas d'argent à ce jour-là où ils commencent les démarches. C'est toutes ces longueurs, ces difficultés, comme vous dites, les papiers qu'on redemande, et puis les préjugés qui sont là.
Voilà. Puis un phénomène que Bernard Morin a évoqué, c'est bon, l'accès au numérique, hein, l'usage simple d'un ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire télécharger un document? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, il y a un phénomène maintenant qu'on connaît, hein, qui d'ailleurs ne concerne pas que les personnes les plus dans la misère, qui ne concerne pas que les personnes âgées, je le dis. Il y a d'autres coupures, et... d'autres discriminations. Et le fait que Bernard Morin l'a aussi évoqué, l'accès à des bûchers, on a une personne humaine, j'allais dire, en face de soi, recule au profit de contacts uniquement par un ordinateur. Ça aussi, c'est un phénomène. Donc, vous voyez les dégâts.
Je vois, d'autant plus que les personnes en précarité sont fragiles. Moi, je retiens encore le témoignage d'une dame qui dit « Oh, j'ai peur chaque fois que je remplis mes ressources trimestrielles, parce que si je me trompe, tout de suite, ça va être coupé. Et donc, j'ai peur de me tromper. Et de ce fait, quand on a peur de se tromper, des fois, on se trompe. »
On se trompe, bien sûr.
Donc... c'est encore plus, même s'ils savent faire, parce que certains se débrouillent un petit peu, mais c'est tellement complexe qu'ils n'arrivent pas toujours jusqu'au bout, au niveau de l'informatique, c'est encore plus stressant, et puis c'est complexe pour la plupart.
Et Jean-Christophe, qui fait partie de l'équipe d'ATD, est à disposition des gens pour toutes ces questions-là.
Pour les aider, pour les accompagner.
Il reçoit beaucoup de monde, puis il y a aussi les maisons de service. On les verra sur le plan cabane avec nous le 17, là, vendredi.
Et c'est une des actions d'ATD que j'ai oubliées au niveau local. Voilà. On a une aide à l'accès aux droits par une aide informatique. Une personne qui fait ça, il en faudrait plus.
Oui, il y a d'autres initiatives publiques ou privées, là.
Voilà. Mais en fait, il les adresse au public. Voilà. Les gens sont démunis. Donc, lui, il connaît les contacts et il les adresse.
Je sais qu'il y a des aides dans les maisons pour tous, destinées aux personnes âgées, pour accompagner, et que les gens puissent maîtriser de manière autonome ces outils-là. Alors, la journée du 17, on l'a évoqué à plusieurs reprises. On va en aborder maintenant le programme dans le détail. Bernard Morin, alors il y a deux temps et deux lieux. Premier temps et premier lieu.
Alors, rendez-vous au Plan Cabane à 10h du matin, vendredi prochain. On aura auparavant installé. Alors, une nouveauté, parce que les gens vont se dire, comment font-ils? Il y a le marché. Alors, on va cohabiter avec le marché.
Bonne intelligence,
il y a une partie qui est occupée vers l'auto-école, ce sera le marché, et vers le lycée de la Merci, c'est là qu'on s'installera, avec l'autorisation de la mairie. Comme ça, on aura le public du marché, et les gens de la rencontre pourront aller finir leur marché s'ils n'ont pas fait. On a aussi une station de tram à côté, et en même temps, c'est le quartier du Plan Cabane. C'est un quartier qui, socialement, est très varié, et donc c'est bien d'aller à la rencontre des gens de ce quartier-là. Voilà.
C'est un quartier mixte.
Donc c'est un lieu qui est très, très agréable pour ça. Le matin, on aura des cercles de parole. On a changé cette année le nom, avant on appelait ça atelier. On a trouvé un nouveau nom qui s'appelle les cercles de parole. Ce sont des petites tables avec un animateur ou une animatrice et quelqu'un qui fait le relevé. Les thèmes sont, je les liste, accès au droit, on vient d'en parler, l'addiction, l'accès à l'alimentation.
Ça a été évoqué aussi.
D'ici ou ailleurs, un combat commun pour les droits de la dignité ou l'immigration. Le numérique dématérialisé sans déshumaniser.
On vient d'en parler.
L'accès à l'emploi. La santé mentale, accéder à un logement ou un hébergement, partage et après avec des partages. Ça, c'est tout le matin avec des ateliers, 8-10 personnes.
Qui ont lieu successivement ou en parallèle?
Alors, en parallèle.
D'accord.
Il y en aura une série de 4 et puis on fait une pause et on fait une deuxième série. Voilà.
Et donc, ça se fait avec tous les gens qui passent et que ça intéresse. Et aussi avec nous, on a essayé d'inviter les personnes qui vivent en précarité, parce que c'est leur parole qu'on veut. Donc, on espère qu'il y aura des personnes en précarité autour de ces tables pour faire un échange riche.
Voilà. C'est des tables de discussion, d'échange de paroles. Ensuite, entre midi et demi et 1h30, on aura un repas
sur place, donc,
convivial. Qui a été préparé par l'entreprise à but d'emploi, qui est une émanation du dispositif de la métropole Grabel et Montpellier, Eau et Val. Donc ça aussi, c'est un signe. Vous savez que l'entreprise à but d'emploi, il y a 3 entreprises comme ça dans l'Hérault. Il y en a 2 qui marchent. Une qui va bientôt démarrer à Pézenas, celle de l'Odève est en fonction. Et à Montpellier, il y a un restaurant et il y a une épicerie dans le Haut-de-Massane. Et donc, c'est l'entreprise à but d'emploi qui viendra servir le repas
sur place,
avec des nappes pour qu'il y ait une rencontre entre tous les gens qui voudront bien être là entre midi et 2h.
Très bien.
Et l'après-midi, on aura des ateliers d'expression avec un atelier d'écriture aux deux classes du lycée de la Merci qui est juste voisine de la fête, de la rencontre. Et il y aura du théâtre au forum. Donc c'est très riche, il y aura les panneaux d'exposition, il y aura le café en permanence du matin au soir et des stands d'information, de l'affichage. Voilà.
Donc des stands notamment tenus par les associations
exactement,
partenaires.
Exactement.
Il y en a beaucoup d'associations, voilà. On
va
pas les citer.
Et après, on va aller pas très loin, rue Pagès, à la maison pour tout Joseph Gricom, et où on a été très bien accueillis par la directrice et son équipe. Et là, on présentera un film qui a été fait tout exprès par les iconophages.
Ouais, parce que le FAS, c'est une équipe de vidéastes locaux, voilà. Et donc, qui travaille beaucoup dans le champ social.
Et hein. Ils sont avec nous depuis le début. Ils ont réalisé un film entre ombre et lumière, regard sur le travail social. Et ça sera suivi d'un débat avec l'équipe du tournage et beaucoup de comédiens, de figurants seront présents. Ensuite, Edith présentera le rapport justement annuel du... Non, c'est pas toi, ça a changé peut-être.
En fait, je présenterai les perspectives après cette journée, mais avant aussi, on remontera tout ce qui a été dit, voilà, dans les tables, les cercles de parole, pour que la parole des personnes soit retransmise.
Il y a toujours cette idée de tirer profit de l'expression libre des personnes que vous accompagnez pour s'en servir, pour en tirer parti.
Voilà.
Quoi.
Et on appelle ça une conférence inversée. D'habitude, une conférence, il y a des gens savants
qui sont sur le podium. Oui.
Et le peuple écoute. Là, c'est le contraire. C'est les témoignages, comme vient de dire Edith, de la journée, des ateliers ou des gens qui ont des choses à dire. Et on demandera ensuite aux officiels, la mairie, le département, les services de l'État, les associations qui ont des responsabilités, comment ils réagissent à ça.
C'est bien cette vocation, on l'a dit au début. Un des principes, un des fondamentaux d'ATD Carmont notamment, d'interpeller,
voilà,
entre guillemets, les autorités, ceux qui détiennent un pouvoir, quelques moyens, notamment de l'argent public, pour faire face à ces besoins d'une partie de la société.
Voilà. Et c'est un exercice tout à fait très original et qui est moi j'ai beaucoup de plaisir chaque année à entendre les retours de la, voilà, puis ça fait un échange avec la salle, c'est très agréable. Donc on invite les officiels à venir nous rejoindre, s'ils ne peuvent pas dans la journée, mais venir au moins à 18h.
Donc vous ne les attendez pas pour le truc habituel, un discours, quelqu'un qui arrive, débarque, qui n'a pas entendu, l'ai vécu ça, qui n'a pas entendu ce qui s'est dit et qui délivre son blabla, en tout cas son propos, dans la méconnaissance complète
de ce qui êtes journaliste, auparavant. Vous avez dû connaître Jean Lelong.
Oui.
Et bien Jean, c'est lui qui a animé longtemps cet échange, cette conférence inversée. Jean, c'est difficile d'intervenir.
D'accord, très bien. Alors, on voit un peu.
Et
là,
on finira par une soupe.
Alors, toujours, il y a quand même le côté un peu.
À midi, on mange. Voilà. Et le soir, il y aura une soupe.
Donc, toujours
avant
la maison
de se séparer.
Toujours à la maison pour tous.
Préparée par
le CHRS. CHRS de Loustal.
Voilà. D'accord, très bien. Donc, on a une idée de cette ambiance-là. Il se dit des choses importantes, mais il se vit des moments agréables, on peut le dire comme ça.
On espère que les médias à qui on a fait signe seront relayés cette journée. Cette journée qui se passe aussi, je ne sais pas où vont vos paroles avec dans vos ondes, mais il y a le 17 octobre, on sera fêté pour la première année à ma connaissance à Béziers, à 18h à la colonie espagnole. Et c'est la première année de 18 avec le même film. Et l'équipe de Béziers, de Pézenas, fêtera ça toujours le samedi qui suit le 17, donc le lendemain, le 18, à la Gare du Nord, avec là aussi des stands, des débats, du théâtre. Moi, personnellement, je n'ai pas le programme. Mais,
ça donne une idée.
C'est trois lieux dans l'Hérault.
On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie l'un et l'autre. Alors, je donne l'adresse mail pour les personnes qui voudraient savoir ce qui se passe, y compris d'ailleurs dans Montpellier. Donc, une adresse mail montpellier34@atd. Comment on peut
tirer
comprendre
du 6.
Tirer du 6, bon, Carmonde, collé, carmonde.fr.
Point org.
Montpellier 34, atdcarmonde.org. Bien, je vous remercie l'un et l'autre et bon succès pour votre rendez-vous du 17
octobre. Il n'y avait pas une idée reçue à la fin.
Et nous n'avons pas le temps, cher ami.
Mais alors, je pense qu'il faudra faire une émission sur le pacte du pouvoir de vivre.
Alors, je l'ai dit aux auditeurs, ceux qui sont des fidèles le savent peut-être, assez souvent à la fin de l'émission, je pose une question. Quelle idée reçue qui vous exaspère?
Mais moi,
on n'aura pas le temps de la traiter.
C'est court.
Allez, allons-y, Bernard.
On dit toujours que tout va mal. Oui. C'est peut-être vrai, mais moi je pense que tout est possible ensemble.
Alors, merci de ce message d'optimisme pour clore cette émission. Au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.